Voyez bien le problème où nous étions. S'il est vrai que savoir, c'est entrelacer deux formes. C'est-à-dire entrelacer le visible et l'énonçable. Ben comment est-ce possible? Comment est-ce possible, une fois dit, que les deux formes sont hétérogènes et non communicantes? Hétérogènes et non communicantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre elles passe une sorte de faille, de béance. Ou, suivant le mot de Blanchot, un non-rapport. Comment donc peut-on entrelacer deux formes séparées, distribuées par un non-rapport? Encore faut-il être bien sûr qu'il y a concrètement une telle béance entre le visible et l'énonçable, une telle faille. Or, je crois que qu'il y ait une telle faille, Foucault, à sa manière, le montre de trois façons, si je considère l'ensemble de ses livres. Il le montre humoristiquement, logiquement et historiquement. Humoristiquement. Eh bien, il suffit de poser la question, s'il y avait une forme commune au visible et à l'énonçable, qu'est-ce qu'elle pourrait bien être? Et la réponse est donnée dans le petit livre « Ceci n'est pas une pipe ». À savoir, s'il y avait une forme commune à l'énonçable et au visible, cette forme apparaîtrait dans ce qu'on appelle un calligramme. Un calligramme, qu'est-ce que c'est en effet? C'est lorsque l'écriture prend la forme même du visible. C'est-à-dire lorsque se fait une unification du visible et du lisible. Par exemple, vous faites un poème intitulé « Le coquetier ». Voyez, le coquetier. Et vous lui donnez la forme visuelle d'un coquetier. Pas compliqué, vous commencez par un vers assez long. Enfin, j'ai pas besoin, Merci beaucoup. Ah, un coquetier. Voilà, un beau coquetier. Alors, vous faites un verre. D'abord là, comme ça, de cette longueur, un verre de cette longueur, un verre de cette longueur, un verre de cette longueur, il y aura un verre tout court avec juste un tout petit mot, un autre petit mot, et puis vous remontez, et vous avez fait un calligramme. Hein? Bon. Dire la forme commune au visible et au lisible, ou au visible et à l'énonçable, c'est le calligramme, ça ne vous fait pas rire. Mais on peut dire que c'est une réponse humoristique. Pourquoi? Parce que c'est une forme parfaitement artificielle. C'est une forme parfaitement artificielle, ce n'est pas la forme spontanée du langage. Le langage n'est pas fait pour prendre la forme du visible. En d'autres termes, la forme du visible est une forme propre. Mais si le calligramme apparaît comme procédé parfaitement artificiel, ça va avoir une conséquence beaucoup plus importante. Quelle conséquence ? De quel droit sous le tableau qui représente une pipe puis-je écrire « Ceci est une pipe » ? De quel droit ? De quel droit ? Sous ou à côté ? Du dessin d'une pipe, ou même d'une pipe visible, puis-je écrire « Ceci est une pipe ». Eh bien, tout dépend ce que veut dire « ceci ». Première interprétation. Ceci, ce serait... Première interprétation. Ceci, ce serait la pipe dessinée. Si ceci, c'est la pipe dessinée, l'énoncé, c'est quoi ? C'est... est une pipe. Or, ceci, la pipe dessinée, n'est pas un énoncé. Donc, l'énoncé, ceci est une pipe, se transforme immédiatement en ceci n'est pas une pipe. Deuxième interprétation. Ceci, c'est pas la pipe dessinée, ceci, c'est l'énoncé. Si ceci, c'est l'énoncé, l'énoncé, ceci, qui est un énoncé, n'est pas une pipe visible. Donc vous ne pouvez pas dire « ceci est une pipe » confronté à la pipe visible sans que l'énoncé « ceci est une pipe » ne se transforme en « ceci n'est pas une pipe ». Donc ce qui correspond à la pipe dessinée, c'est l'énoncé « ceci n'est pas une pipe » et pas du tout l'énoncé « ceci est une pipe ». C'est amusant. Hein? D'où le droit logique de Magritte de dessiner la célèbre pipe et d'écrire dessous « Ceci n'est pas une pipe hein? ». Oh, ça va ? C'est clair ? C'est... Ça fait partie des affinités de Foucault avec le surréalisme. Il a toujours eu ça. Son rapport avec Roussel, son rapport avec Magritte. C'est très surréaliste tout ce thème de l'énoncé du visible. Dans un contexte plus sérieux, on trouvera la même chose dans « Naissance de la clinique ». Dans Naissance de la clinique, Foucault montre très bien que la clinique, quand elle se forme au XVIIIe siècle, se forme sur une espèce de postulat étonnant, à savoir la conformité des symptômes et des signes, ou si vous préférez, la conformité de la maladie visible et de la maladie énonçable. Comme s'il y avait une grammaire visible de la maladie et une visibilité grammaticale de la maladie. La maladie doit être simultanément lue et vue. Ce sera le principe de base de la clinique. Et ça dure ce que ça peut durer. Car enchaînera avec la clinique, au XIXe siècle, l'anatomie pathologique. Et l'anatomie pathologique restaurera l'hétérogénéité de la maladie visible et de la maladie dissible, ou énonçable. Dans des conditions qu'on verra plus tard, pour dire c'est pas là-dessus que... C'est pas ça que je veux développer aujourd'hui. Ce que je veux indiquer, c'est que, parlant précisément de ce postulat de la clinique au XVIIIe siècle, Foucault nous dira, mais ce n'est qu'un rêve. Rêve, précisément, dont va tomber l'anatomie pathologique. L'anatomie pathologique sera comme le réveil de ce rêve. Et page 117, vous avez ce texte qui m'intéresse beaucoup. La clinique est un équilibre précaire, car elle repose sur un formidable postulat. Un formidable postulat. À savoir que tout le visible est énonçable et qu'il est tout entier visible parce que tout entier énonçable. Un postulat d'une pareille portée ne pouvait permettre une science cohérente que s'il était développé dans une logique qui en fut la suite rigoureuse. Or, l'armature logique de la pensée clinique n'est pas en cohérence absolue avec ce postulat. Et la réversibilité sans résidu du visible dans l'énonçable reste dans la clinique une exigence et une limite plutôt qu'un principe originaire. La descriptibilité totale est un horizon présent et reculé, c'est le rêve d'une pensée, beaucoup plus qu'une structure conceptuelle de base. On ne peut pas dire mieux, là, au niveau d'un exemple médical, que la conformité, c'est-à-dire l'unité ou la communauté de forme entre le visible et l'énonçable, n'est même pas une structure, c'est un rêve. C'est un rêve. De même que le calligramme est un rêve. De même que la possibilité d'énoncer ceci est une pipe à côté d'une pipe visible est un rêve. Voilà pour la présentation humoristique de l'irréductibilité des deux formes, le visible et l'énonçable. J'ajoute, il y a aussi une présentation logique chez Foucault. La présentation logique, nous l'avons vue. Nous l'avons vue puisque nous avons passé des heures et des heures sur qu'est-ce qu'un énoncé. Et si je résume... Là, le point essentiel, c'est que l'énoncé a un objet spécifique, c'est-à-dire l'énoncé a un objet qui est une de ses variables intérieures. Donc, du point de vue d'une logique de l'énoncé, l'énoncé renvoie à cet objet comme à une de ses variables intérieures. Il ne renvoie pas à un objet visible présenté comme état de choses auquel l'énoncé se référerait. C'est la destruction de la théorie logique de la référence qui va établir cette faille entre l'énoncé qui a son propre objet interne et le visible irréductible à l'énoncé. Ce qui est une autre manière de dire, mais cette fois-ci logiquement et non plus humoristiquement, le seul énoncé qui corresponde à la pipe visible, c'est ceci n'est pas une pipe. Troisième point, historiquement. Et c'est sans doute ce à quoi Foucault tient le plus, parce que, à la rigueur, les deux points de vue précédents, il les renouvelle. Mais on trouverait des précédents. Ce qui est vraiment original, il me semble, là, chez Foucault, c'est la démonstration historique de l'hétérogénéité des deux formes, le visible et l'énonçable. Et on a vu qu'il le poursuivait à travers deux livres qui se font écho. Histoire de la folie et surveiller et puni. Et si je regroupe des choses qui pour vous doivent être faciles, là, mais justement, très bien, c'est bien que ce soit facile. L'histoire de la folie nous disait quoi ? Vous vous rappelez ? Il y a un lieu...
Et voilà.
J'efface le coquet, hein. l'histoire de la folie nous disait, il y a un lieu de visibilité de la folie, qui est l'hôpital général. Je cherche des énoncés qui correspondent. J'emploie correspondre en un sens très vague, en un sens égal X, puisque nous savons d'avance qu'il ne s'agit pas de dire que c'est la même forme. Je cherche des énoncés qui correspondent. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve des énoncés, par exemple, médicaux, mais pas seulement médicaux. Aussi des énoncés réglementaires ou littéraires. Qui sont des énoncés portant sur la déraison. Remarquez, vous avez déjà toute la méthode de Foucault, vous voyez bien en quoi, c'est pas du tout, hein, en quoi ils iront avec la linguistique. La folie est nullement l'objet, le référent de l'énoncé. Pourquoi ? Puisque l'énoncé a son propre objet, la déraison. Vous me direz, mais la déraison et la folie, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Historiquement, c'est pas la même chose. Le fou, il est défini dans l'hôpital général. Le déraisonnable, l'homme de la déraison, il est défini tout à fait ailleurs. Il est défini au niveau des énoncés médicaux. Vous me direz, mais bon, et ça se rencontre ? Non, ça ne se rencontre pas. À l'hôpital général, on fait de la police, on ne soigne pas. Bien sûr, il faut demander tout ça. Il y a un minimum de soins, mais... L'acte fondateur de l'hôpital général n'a rien à voir avec une opération médicale. Il a tout à voir avec une opération policière, dont témoigne la réunion des fous avec, on l'a vu, les chômeurs, les vagabonds, les mendiants, etc. Blanchot, qui comprend très bien, puisque c'est un sujet commun à lui et à Foucault, Blanchot fait une analyse très belle dans l'entretien infini de l'histoire de la folie. Et il dit, c'est l'affrontement, ce dont Foucault nous parle, c'est de l'affrontement de la folie et de la déraison. À savoir, comment expliquer au XVIIe siècle qu'un homme énonçable comme homme de la déraison puisse se retrouver à l'hôpital général comme fou. C'est pas la même forme. Dans l'entretien infini, cet affrontement. Ou encore, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, qu'est-ce donc qui condamnerait à la folie ceux qui, une fois, ont tenté l'épreuve de la déraison ? Quel rapport y a-t-il entre le savoir obscur de la déraison et le savoir clair, celui que la science appelle folie ? Affrontement de la folie et de la déraison. Les énoncés, encore une fois, sont des énoncés de déraison. La visibilité est une visibilité de la folie. À l'hôpital général, on ne soigne pas. Les énoncés médicaux sont des énoncés sur ou de la déraison. mais on ne soigne pas l'hôpital général, qui rend la folie visible, ou qui est la visibilité même de la folie. Surveiller et punir, à mon avis, pousse plus loin l'analyse. Et envisage quoi cette fois-ci? C'est tout à fait parallèle, on l'a vu, c'est tout à fait parallèle à l'histoire de la folie. Et l'envisage, la prison comme lieu de visibilité, lieu de visibilité du crime, lieu de visibilité de l'infraction. On a vu que la prison était un lieu de visibilité, par définition, puisque la prison, c'est en effet le panoptique. Et d'autre part, le droit pénal. Qui est un régime dénoncé. Or, on reprend la même question. Est-ce qu'il y a forme commune? Et la réponse de Foucault, par de longues analyses historiques, c'est non. Non. Il n'y a pas forme commune. Au moment même où la prison apparaît, ou si vous préférez, se généralise, le droit pénal, les énoncés de droit pénal, cherchent dans une toute autre direction. Le droit pénal ne comporte pas, dans son horizon, la prison. Toute l'évolution du droit pénal au XVIIIe siècle se fait sans référence à la prison. En effet, la prison, c'est une punition parmi d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? De quoi s'occupe le droit pénal? Le droit pénal s'occupe exactement comme les énoncés médicaux s'occupaient, non pas du fou, mais de la déraison. Les énoncés juridiques s'occupent de quoi? Du délinquant. La délinquance, c'est ça l'objet spécifique des énoncés. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, à la lettre? La délinquance est l'objet spécifique des énoncés, ça veut dire que les énoncés du droit pénal au XVIIIe siècle, dans son évolution, dans l'évolution du droit, classent et définissent d'une nouvelle manière les infractions. La délinquance, c'est l'objet nouveau des énoncés de droit, c'est-à-dire c'est une nouvelle manière de classer les infractions. Ça, on retrouvera ce thème plus tard. Là, je cherche uniquement pour le moment à dégager un schéma presque formel. Donc vous avez d'un côté, du côté du visible, vous avez prison, prisonnier. De l'autre côté, vous avez énoncé délinquance. Tout ce thème, vous le trouvez, surveiller et punir, deuxième partie, chapitre 1 et 2. Chapitre 1, analyse des énoncés de droit pénal. Au XVIIIe siècle, chapitre 2, la prison ne renvoie pas à un modèle juridique. La prison n'est pas prise dans l'horizon, dans les objets de l'énoncé de droit pénal. Mais alors d'où vient-elle? Elle vient d'un tout autre horizon. Qui est quoi? Les techniques disciplinaires. Les techniques disciplinaires qui sont absolument différentes des énoncés juridiques. technique disciplinaire que vous retrouverez dans l'école. Vous voyez à quel point c'est loin du droit. Dans l'école, dans l'armée. Dans l'atelier. Il y a un tout autre horizon juridique. Il peut avoir un horizon militaire, un horizon scolaire, un horizon... Si bien qu'à la limite, il faudrait dire la même chose. Jamais un énoncé juridique pourra dire devant une prison, ceci est une prison. L'énoncé juridique devrait dire devant une prison, ceci n'est pas une prison. Parfait. Deuxième point. Bien sûr, il faut prévoir une objection, bien sûr. La prison produit des énoncés. Et bien sûr, le droit pénal, comme forme d'expression, renvoie à des contenus particuliers. Le droit pénal renvoie à des contenus, c'est-à-dire que dans la mesure où les énoncés de droit pénal classent les infractions d'une nouvelle manière au XVIIIe siècle, il faut bien que, en dehors des énoncés, dans le monde visible, les infractions elles-mêmes changeaient de nature. Et on l'a vu au XVIIIe siècle. Tant à se faire, une espèce de mutation, sinon de mutation du moins, d'évolution des infractions, les infractions devenant de plus en plus des atteintes à la propriété. Et Foucault consacre 3-4 pages à ce changement très très important, très intéressant, qui coïncide avec la fin des grandes jacqueries, avec la fin où au XVIIe siècle, la criminalité était essentiellement une atteinte aux personnes, avec les grandes bandes, les jacqueries rurales, et au XVIIIe siècle, se fait une espèce de conviction, de changement des infractions, qui a été très très bien étudiée par un historien qui s'appelle Chaudu. À partir des archives, c'est des choses qu'on peut trouver dans les archives, il a beaucoup travaillé dans les archives normandes pour essayer de montrer comment se développent statistiquement des infractions fondées sur les petits groupements de criminels, contrairement aux grandes bandes précédentes, et du type escroquerie, atteinte aux biens, et non plus atteinte aux personnes. Bon, alors, je dois dire que les énoncés, bien sûr, renvoient à des contenus extrinsèques et que les visibilités renvoient à des énoncés. Par exemple, la prison engendre des énoncés. Le règlement de la prison. Les règlements de la prison sont des énoncés. Ça n'a pas grande importance que les visibilités renvoient à des énoncés secondaires. Que les énoncés renvoient à des contenus extrinsèques, tout ça. Ça n'empêche pas que l'énoncé dans sa forme n'a jamais la forme du visible, et le visible dans sa forme n'a jamais la forme de l'énoncé. Et pourtant, troisième élément, il y a comme croisement. C'est-à-dire, lorsque la prison s'impose, venant d'un tout autre horizon que l'horizon juridique, alors la prison se charge de réaliser les objectifs du droit pénal. Elle vient d'ailleurs, elle a une autre origine que le droit pénal, mais une fois qu'elle sait s'imposer,